Je me souviens que ce soir-là, notre père était rentré plus tôt qu'à son habitude. À peine avait-il franchi la porte du salon qu'il s'écria d'un ton plein de joie et d'exaltation.
Armandine, les enfants, venez vite. Paris est une ville vraiment extraordinaire. J'ai déjà reçu les premiers tirages de mes photos.
Notre mère quitta sa lecture, mon frère Armand interrompit sa bataille d'Austerlitz et moi, j'abandonnais le coin de ma fenêtre qui donnait sur le boulevard Saint-Marcel. Mon frère arriva en glissade sur le parquet, ce qui lui valut les remontrances habituelles de notre mère. Notre père déposa sur la table un petit paquet de papier Kraft. Au milieu du cercle de famille, le paquet fut rapidement ouvert. S'étalèrent alors sous nos yeux les premiers tirages des cartes postales dont notre père nous parlait tant depuis des mois. Sur ces petits bouts de carton, on voyait défiler le Grand Palais, le Petit Palais, le Pavillon des Beaux-Arts, le Pavillon de la Serbie, celui de la Chine, les quais de Seine, le Palais de la Navigation et tant d'autres images qui nous fascinaient. Toute l'exposition universelle de 1900 se déroulait sous nos yeux. Notre père exultait et disait à maman, la serrant fort par la taille.
Armandine, on va être riche, tu comprends? Riche, très riche.
Notre père était photographe, pas un de ces photographes prisés des célébrités. Non, il tenait simplement boutique et cabinet noir rue Mouffetard. Quelques mètres carrés meublés de comptoirs en bois, de présentoirs et juste derrière son cabinet photographique. Ses clients venaient ici poser seuls, en couple, en tenue du dimanche, en militaire. Il y avait pour donner du style aux photoportraits des colonnes grecques en carton-pâte, des décors champêtres, de lourds rideaux, un canapé, des grands vases et des bouquets de fleurs en soie. Un vrai palais de l'illusion. Mon père ne se satisfaisait pas de cette situation. Il travaillait sans enthousiasme. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était partir, laisser ses lampes au magnésium, quitter son cabinet noir et rejoindre la lumière, la vraie. Sa chambre noire portative sur l'épaule et sa lourde sacoche de matériel à bout de bras, il sillonnait Paris. Il photographiait les gens en train de vivre, des scènes de rue, des travailleurs, des indigents. Il nous disait qu'avec son appareil photographique, il aspirait Paris, il aspirait la vie. Un jour de 1899, au hasard de ses reportages, alors qu'il aspirait la vie sur les quais de la Seine, arrivé au niveau du pont de l'Alma, à la vue des titanesques travaux de l'exposition universelle, lui vint l'idée d'être le premier à proposer aux futurs visiteurs toute une collection de cartes postales souvenirs. L'exposition avait pour thème le bilan d'un siècle. Tout devait être présenté au reste du monde. L'industrie, les arts modernes, l'électricité, l'aviation, la grande roue de 100 mètres de haut, le village suisse reconstitué, les trottoirs roulants et toutes ces innovations qui devaient assurer la place prépondérante que la France allait tenir en début de ce siècle. L'engouement des populations pour la carte postale était en plein essor. Mon père avait enfin trouvé sa place dans ce tourbillon qui allait nous faire passer dans la plus grande des euphories d'une rive d'un siècle à une autre, pleine de modernisme, de grandes découvertes et d'espoir. En usant de quelques relations, il parvint à obtenir un laissez-passer pour accéder au cœur de l'exposition en travaux. Il prit des dizaines de clichés des bâtiments, des palais, des bords de la Seine, de l'exposition coloniale, de ses jardins, de son pavillon du Soudan et du Sénégal, de toutes ses terres lointaines, pour finir le 14 avril 1900, parmi les photographes habilités à suivre l'inauguration dans les pas d'Émile Loubet, président de la Troisième République. Le lendemain, 15 avril 1900, des milliers de visiteurs se précipitèrent pour découvrir les merveilles d'un siècle révolu. Ils avaient hâte de faire savoir au reste du monde qu'ils étaient les premiers à explorer l'exposition universelle. Dès ce jour, des millions de cartes postales quittèrent Paris pour aller faire rêver les cousins d'Argenton, de La Frasse, de Saint-Augustin et bien d'autres. L'exposition dura 212 jours et reçut 50 800 000 visiteurs. D'avril à novembre 1900, notre père ne fit plus que de rapides passages au boulevard Saint-Marcel, où nous l'attendions le plus clair de notre temps. La boutique ne servait plus qu'à la gestion des cartes postales et à leur stockage. Tôt le matin, des revendeurs venaient chercher leur cargaison de cartons imprimés. Peu de discours entre mon père et ses représentants, mais avant qu'ils ne s'égayent aux 36 portes de l'exposition, il leur répétait inlassablement.
Et surtout, vous dites bien aux gens qu'ils doivent écrire du côté de la photographie et que de l'autre côté, ils doivent juste mettre l'adresse.
Son entreprise était florissante. Sa fierté se portait tout particulièrement sur les trois lettres E, B, J notées sur chacune des cartes postales, ces trois lettres qui signifiaient « Édition des beaux jours ». Le mois de décembre arriva avec son cortège de brouillard, de pluie et d'humidité. Certains jours, les brumes et les fumées rendaient l'air de la ville irrespirable. Alors, la mélancolie s'emparait de moi. J'avais grand mal à respirer. Notre mère trouvait que mon frère et moi étions paluchons et que nous n'avions ni entrain ni appétit. Pourtant, les dimanches après-midi, nous partions tous les quatre prendre l'air, tantôt au jardin des plantes, tantôt au jardin du Luxembourg. Mais celui que nous préférions, c'était le jardin des Tuileries. Nous y allions en fiacre. Arrivés au grand bassin, notre père nous louait un magnifique bateau à voile et pendant que nous guidions notre goélette, nos parents de loin nous surveillaient tout en souriant. Noël 1900 se passa en famille au coin du feu, en compagnie de l'oncle Désiré et de son épouse, tante Alphonsine. Notre appétit déclinait et l'oncle Désiré, qui au dire de mon père tenait mieux à table qu'à cheval, ne put s'empêcher de faire remarquer à nos parents que nous picorions comme des oiseaux et que nous avions une mine de papier mâché. Certainement vexés ou simplement inquiétés par les propos de l'oncle Désiré, quelques jours après Noël, nous vîmes débarquer dans notre appartement du boulevard Saint-Marcel le docteur Martius. Petite taille, petite barbe blanche, petite sacoche, petite lunette, petite voix, mais grande réputation. Il était le médecin de la famille. Il paraît, s'il fallait le croire, qu'il nous avait vu naître, mon frère et moi. Des bons conseils du docteur Martius, nous n'avions retenu, mon frère et moi, que ce séjour au bord de la mer. Nous avions rayé de nos esprits l'huile de foie de morue et la cuillère de sirop gadoise qui était censée nous purifier le sang, nous stimuler l'appétit et nous redonner des forces face à la maladie. Notre père ne voulut pas rester en compte et prétendit que lui aussi se sentait affaibli par tant d'activités. Un ami lui avait conseillé la consommation régulière de vin Mariani. Prescrit par le corps médical et par les plus grands de ce monde, il effaçait les anémies, le surmenage, les affaiblissements du cerveau, les maux d'estomac, les affections nerveuses, car il contenait du coca du Pérou. Avec l'arrivée des beaux jours, notre état de santé s'améliora. Début avril 1901, notre mère reçut une lettre qui vint bouleverser nos petites vies bien tranquilles, partagées entre l'école, les leçons de piano et les promenades dominicales. Nous venions de louer pour notre plus grand bien et en raison de notre santé fragile, une maison à Fouras-les-Bains. À compter de ce jour, tout changea à la maison. On ne parlait plus que de cela. La ville au nom bizarre qui amusait tant mon frère avait été repérée sur une carte de France. Nous connaissions déjà le nom des villes que le train allait traverser avant d'arriver à la mer. Nous connaissions les noms et prénoms de nos loueurs. Enfin, Armand avait appris par cœur le libellé de la petite carte qui nous avait été offerte lors de l'achat de nos billets de train. Fouras, le parc, les chênes verts, excursion, pêche, casino, théâtre, concert, bal, poste, télégraphe et téléphone. Ce nom de Fouras était prononcé à la maison des centaines de fois par jour, comme pour s'assurer que c'était bien sûr, nous allions partir à la mer. Cependant, une ombre venait ternir l'idyllique tableau. Notre père ne pouvait pas partir en même temps que nous.
Vous comprenez les enfants, l'été c'est le moment où il y a beaucoup de monde qui achète des cartes postales. Et maintenant que les éditions des Beaux Jours emploient 62 personnes et que je dois m'occuper des 8 succursales, je ne peux pas me permettre de partir et laisser l'affaire tourner toute seule. J'irai donc vous rejoindre de temps en temps.
Au fil des mois, les préparatifs s'accélérèrent. À plusieurs reprises, nous nous rendîmes à la Samaritaine, grand magasin tout près du Pont Neuf. Il proposait à sa clientèle tout ce qu'il fallait pour les grands voyageurs. Des pantalons, des robes de bord de mer, des chapeaux avec des cerises dessus, des gilets à rayures bleu ciel, des ombrelles et même des casques pour les explorateurs dont mon frère se fit tout de suite envie. C'était de bon cœur que notre mère se rendait dans cet antre du nouveau commerce. Un soir que nous dînions, notre père se lança dans une grande explication sur l'intérêt de tout acheter à la Samaritaine.
Vous comprenez, ma chère Armandine, la Samaritaine, c'est le modernisme. Entrée libre, prix affiché, donc pas de crainte de se voir voler sur la marchandise. Marge sur chaque article réduite. Dernière nouveauté exposée, vendeuses et vendeurs souriants et de bons conseils. C'est ça l'avenir. Mais le plus important, c'est que le propriétaire, ce brave monsieur Ernest Cognac, qui a commencé le métier dans une minuscule boutique, savez-vous, Armandine, où il est né?
Tout en finissant son potage, notre mère lui répondit sur un ton exaspéré. « Mais comment voulez-vous que je sache où il est né, votre monsieur Cognac ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les enfants, nous venons de passer tout l'après-midi dans son magasin, très grand magasin, et que nous sommes exténués. »
Eh bien, il est né sur l'île de Ré, plus exactement à Saint-Martin-de-Ré, au bord de la mer, juste à côté de Fouras-les-Bains, et que lui doit savoir exactement ce qu'il vous faut pour séjourner au bord de la mer.
Un grand silence accompagna l'intervention de notre père. Mon frère fut pris d'un profond bâillement, j'avais les yeux qui me piquaient de sommeil et je m'endormis sur ma chaise. Tout alla très vite. Un livreur apporta les deux grandes malles au couvercle bombé qui avaient été commandées dans une boutique vers la rue Soufflot. La petite chambre bleue fut utilisée pour entreposer nos affaires. Le linge et les vêtements s'empilaient sur le lit et sur les fauteuils. Notre mère devenait fébrile. Juin passa, juillet pointait son nez et tout commençait à sentir l'air du large. L'oncle et la tante continuaient à nous rendre visite régulièrement. Un séjour à Douville en 1898 leur permettait de nous abreuver de conseils. Notre tante nous apportait ses recommandations sur les dangers des expositions au soleil, sur la transpiration excessive, sur les séjours prolongés sous les arbres et avant toute chose, sur la menace que pouvaient présenter les bains de mer pour nos santé fragiles. Notre oncle, lui, nous mit en garde sur l'usage des boissons fraîches et sur la consommation trop régulière de crustacés et de fruits de mer. Nos billets de train étaient sur le buffet de la salle à manger depuis quelques jours. Tout était prêt. Rien ne manquait à l'inventaire. Je ne me lassais pas de rêvasser devant cette cartelette en couleur que notre père avait rapportée de la gare d'Austerlitz. J'avais beau scruter l'image de mon mieux, je ne parvenais toujours pas à m'imaginer cette mer que je n'avais jamais vue. Le grand jour était enfin arrivé. Nos malles avaient été transportées par le préposé jusqu'au wagon à bagages. C'était la première fois que nous montions dans un train. Notre père, dans une étreinte collective, nous donna ses dernières consignes.
« Soyez bien sage pendant le voyage, occupez-vous bien de votre mère et surtout n'oubliez pas de m'écrire pour me raconter votre séjour. »
Un long sifflement strident et modulé nous fit mettre les mains sur nos oreilles. Une première secousse suivie d'une seconde, encore plus brutale, et notre wagon commença à rouler. Sur le quai de la gare d'Austerlitz, notre père nous faisait de grands signes de la main. Pendant un court instant, notre mère secoua son mouchoir en direction du quai, puis le serra fort sur sa bouche. Le convoi n'en finissait pas de sortir de la gare. Notre père suivait le wagon d'un pas tranquille. Notre mère avait les yeux rougis, sans doute par la fumée mêlée à la vapeur qui envahissait la haute voûte de verre et d'acier. Notre train finit par prendre de la vitesse. Notre père disparut dans de lourdes volutes de vapeur. Nous quittions l'immense verrière. Le soleil traversa notre compartiment. L'aventure commençait. À nous l'océan, à nous Fouras-les-Bains. La campagne défilait sous nos yeux émerveillés. Paris n'était plus qu'un souvenir. Les enfants, dans 8 heures nous devrions voir l'océan, furent les premiers mots que prononça notre mère, bien après notre départ. le nez collé à la vitre, mon regard fouillait déjà l'horizon, à la recherche d'un signe, un bateau, une plage, une dame avec une ombrelle. Je m'endormis dans les bras de maman. Le convoi gémit, puis frissonna, se secoua et d'un dernier balancement s'arrêta. J'ouvris les yeux. Sur un grand panneau, je pus lire « Tours ». J'avais l'impression d'avoir quitté Paris depuis plusieurs jours. 2 heures d'arrêt à Tours ne suffirent pas à nous délasser de cette première partie du parcours. Le voyage se déroulait tranquillement. Plusieurs arrêts en pleine campagne fit dire à nos voisins de wagon qu'il devait encore y avoir un accident ou un incident sur la voie. Dans l'après-midi, le monsieur à grosse moustache, assis devant moi, commença tantôt à sortir sa montre du gousset de sa veste, tantôt à essuyer son front ruisselant. Le rythme s'accéléra quand soudain il s'exclama.
« Mesdames et messieurs, si mes calculs sont exacts, dans moins d'une demi-heure, nous serons arrivés à Fouras. »
Quelqu'un dans le wagon avait bien crié « J'ai vu la mer !» J'avais beau regarder de tous bords, rien ne ressemblait à l'idée que je me faisais de celle-ci. Parmi un paysage de taillis, de bosquets, je parvins à apercevoir quelque chose qui semblait être la mer. Les cris qui fusèrent me le confirmèrent tout de suite. Le train ralentit, une dernière courbe, les dernières secousses, les derniers crissements des freins, et enfin le panneau en émail bleu sur lequel je pus lire « Fouras les bains ». Un coup de sifflet strident. Le chef de gare annonça «
Fouras les bains, terminus !»
Nous allions enfin quitter le train des bains de mer de l'océan. Une foule de voyageurs jaillit des wagons, le quai devint noir de monde. Les uns s'interpellaient, les autres visiblement fatigués cherchaient du regard la sortie. Cette déferlante humaine finit par quitter la gare. Des porteurs, des conducteurs de voitures à chevaux cherchaient leurs clients. Les premiers attelages quittèrent l'esplanade dans le claquement des fouets. Un petit homme trapu s'approcha de notre mère et il nous salua tous les trois en enlevant sa casquette. Le brouhaha ambiant ne nous permit pas d'entendre ce qu'il disait, mais nous comprîmes à son geste que sa carriole nous attendait à l'ombre des tilleuls. Ce fut notre première rencontre avec Jules Tartarin, le propriétaire de la maison dans laquelle nous allions vivre notre premier séjour au bord de la mer. Les mâles achetés rue Soufflot et les 2 grosses sacoches en cuir furent solidement attachées sur la charrette à bras de Monsieur Tartarin. Celui-ci s'installa entre les 2 brancards, s'arc-bouta et le lourd chariot démarra. En cours de route, il nous rassura en nous informant que ce n'était plus très loin. Arrivé devant la mairie, M. Tartarin fit une pause au milieu de la rue. Il s'essuya le front et d'un geste ample nous expliqua qu'ici, c'était la rue des 2 ports. À un bout, on trouvait le port nord et à l'autre bout, le port sud. Tout en reprenant notre route, il nous rassura en nous expliquant qu'à Fouras, on ne pouvait pas se perdre car tous les chemins menaient non pas à Rome, mais à la mer. 3 ou 4 habitants goguenards, attroupés sur notre passage, interpellèrent M. Tartarin. On ne comprit rien de ce qu'il disait, mais sans lever les yeux des cailloux blancs de la rue, notre propriétaire leur répondit dans une langue qui nous était étrangère. Tout ce que l'on put en conclure, c'est que sa réponse devait être bien amusante, car les commis bouchers qui étaient sortis sur le pas de leur étal se tapaient les cuisses tout en riant bien fort. Après quelques centaines de mètres dans la rue de la Fée du Bois, nous arrivions enfin à destination. Une belle petite maison basse avec des grosses pierres de taille dans chaque angle, des fleurs, une treille qui parcourait tout le jardin et une dalle de pierre scellée au-dessus de la porte sur laquelle était gravée « Année 1856 ». Le long de l'habitation de Monsieur et Madame Tartarin, une large allée permettait l'accès à une autre maison. Nous venions de découvrir ce lieu magnifique, entouré d'arbres et de fleurs, dans lequel j'allais passer les plus beaux moments de toute mon enfance. La maison était fraîche et claire. Le mobilier n'avait rien à voir avec celui que notre mère avait choisi pour notre domicile du boulevard Saint-Marcel. Madame Tartarin nous attendait à la cuisine. Très souriante, elle s'essuya les mains sur un grand tablier bleu marine et après nous avoir accueillis, elle nous informa que tout était prêt pour le dîner de ce soir. Je m'endormis, des paysages défilaient encore devant mes yeux. Le premier jour et tous ceux qui suivirent furent délicieux. Le matin, avec Armand, nous avions pour consigne de jouer tranquillement dans le jardin. Ses fraîches allées, sa pergola fleurie, le petit bassin en ciment couvert de nénuphars, tout cet espace était pour nous, rien que pour nous. Pendant que nous jouions, notre mère sur la petite terrasse écrivait. Elle écrivait d'abord à notre père, puis à la famille et enfin à ses amis pour les entretenir de nos émerveillements et de nos découvertes. Les soins à mes poupées terminés, les billes de mon frère rangées dans leur sac, nous grappillions quelques framboises, puis arrivait l'heure de nos travaux d'écriture. Soit nous écrivions des passages des lettres de mon moulin de M. Daudet sous la dictée de notre mère, soit nous étions chargés de raconter à notre père le déroulement de notre nouvelle vie à Fouras-les-Bains. J'aimais beaucoup ces activités. Armand, en tant qu'à lui rechignait, il soufflait, s'agitait, se tortillait sur sa chaise, qu'il prétendait toujours trop haute ou trop basse, selon les jours. Au fil de nos promenades, nous avions découvert au croisement du boulevard Allard et de la rue des Deux-Ports une boutique adorable, chez Charles. Monsieur Charles vendait des corsets, de la lingerie, des chemises, des bonnets de nuit, mais aussi du papier à lettres, des enveloppes, de la colle à papier et des cartes postales. Monsieur Charles devint vite un de nos fournisseurs patentés. Je m'y fournissais tout particulièrement en cartes postales locales. Sur mes cartes postales, heure par heure, je relatais à notre père nos journées, nos promenades, nos séjours sous les sapinettes, les orangeades, les pêcheurs de crevettes, la plage, les îles, le marché aux poissons, les pluies d'orage, les jeux de plage, les vagues qui essayaient de nous mordre les pieds, les grands oiseaux blancs qui déchiraient le ciel de leurs cris tapageurs, les pontons, les rues animées du marché, les petits marchands ambulants et surtout ces gens qui habitaient Fouras mais qui s'exprimait parfois dans une langue que je ne comprenais pas du tout. Au contact de M. et Mme Tartarin, Armand avait fait, au grand désespoir de notre mère, de rapides progrès dans la pratique de cette nouvelle langue nommée patois. Cette facilité et l'intérêt qu'Armand marquait pour ce nouvel apprentissage inquiétaient beaucoup notre mère. Il progressait et quand il se mettait à me réciter tous ces mots, ce n'était qu'éclat de rire au fond du jardin. Il me parlait de la berouette de Jules Tartarin, du chapia de sa femme, de mes catins au lieu de mes poupées, des poumes qui grossissaient dans le pommier. Et quand il se mettait à pleuvoir, Armand disait « Au mouille, on va faire sortir les cagouilles » et nos rires repartaient de plus belle. Notre mère s'était entretenue du problème avec Antoinette Tartarin. La brave dame, d'un large sourire, lui avait répondu « Parlez, coumé et parlant sur tous dans mon village !» Cette réponse n'était pas faite pour rassurer notre mère, et à partir de là, elle prit conscience que nous vivions dans un autre monde, et qu'il allait bien falloir s'adapter à celui-ci, faute de voir tous ces braves gens se mettre à parler le français de Paris. Au début de notre séjour, les après-midi étaient consacrés à notre santé. Notre mère, munie de son ombrelle, ouvrait le chemin. À son bras, un panier en osier contenait notre goûter de 4 heures et une bouteille en verre recouverte d'un linge humide. Dans ses pas, nos chapeaux bien enfoncés sur la tête, nous traînions les pieds. Notre mère nous pressait, car planait au-dessus de nos têtes l'insolation et les saignements de nez. Notre parcours était toujours le même. La mairie, l'église Saint-Gaudens, puis nous rattrapions le boulevard Allard. Là, à l'ombre des arbres qui bordaient la chaussée, nous étions enfin protégés des rayons malfaisants du soleil. Au bout du boulevard, nous arrivions sous les sapinettes qui surplombaient la mer. Un mélange d'air chaud et d'air du large me laissait une sensation de bien-être. Des senteurs marines et de sèves mélangées exhalaient du sous-bois. Allongés sur des chaises longues au tissu rayé, notre après-midi se déroulait dans un calme relatif. Des cris, des chants mêlés au bruit des vagues montées de la plage où quelques innocents, inconscients du danger, jouaient sur le sable. Le temps me paraissait long et lorsque nos agitations n'étaient plus contrôlables, notre mère nous disait qu'elle allait nous abandonner au sanatorium de Foura. La première fois que la menace tomba, je dois bien avouer que cela ne changea pas grand-chose à notre comportement. Il fallut qu'un jour, au détour d'une promenade, nous passâmes devant la dite maison de santé. Nous fûmes bouleversés par ce spectacle et par les explications données par notre mère. Cette sortie éducative eut un double effet. Le premier, calmer nos ardeurs et revendications. Le second, accepter certes de mauvais cœur notre statut d'ancien malade en convalescence au bain de mer. Dans le panier en osier qui accompagnait chacun de nos repos sous les sapinettes, il y avait non seulement la nourriture du corps, mais aussi celle de l'esprit. À chacun son livre, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur pour moi, et pour Armand, De la terre à la lune de Monsieur Jules Verne. Ni l'un ni l'autre n'aimions beaucoup cette activité, et c'est pourquoi chacun notre tour nous tentions de rompre la loi du silence en posant à notre mère des questions sur notre lecture. Ceci avait le don de l'exaspérer, mais nous permettait de ne plus voir le temps passer. Ce stratagème commun usa vite sa patience. Quelques jours plus tard, notre mère, informée par un panneau de réclame peint sur une des bâtisses face au marché aux poissons, découvrit l'existence d'une petite boutique qui vendait des journaux. Plusieurs exemplaires de l'hebdomadaire Le Petit Français Illustré n'attendaient plus que nous pour 10 centimes le numéro. Mais ce qui déchaîna très vite nos ardeurs à la lecture furent les pages où se déroulaient soit les aventures du sapeur Camembert, de la famille Fenouillard, du savant Cosinus ou de Plic et Ploc. Les histoires défilaient sous nos yeux sous forme de petits pavés illustrés sous lesquels de courts textes complétaient les effets comiques. Nos séjours au petit bois sur la plage devinrent un réel plaisir. Nous lisions et relisions chaque publication et nous finissions par oublier que nous étions là pour une cure de grand air marin entre les sapinettes et les tamarins. Il avait été convenu, bien avant notre départ, que notre mère serait assistée d'une personne pendant notre séjour au bain de mer. Cette décision s'était concrétisée dès notre arrivée à Foura par la présence chaque matin à la maison d'Antoinette Tartarin. Elle préparait les petits déjeuners, confectionnait le repas de midi et accommodait pour le soir un dîner que notre mère se chargeait de sortir du garde-manger et éventuellement de réchauffer. Bien que discrète et peu bavarde, Antoinette nous apprit qu'hormis son goût marqué pour la cuisine et le bien-être de son mari Jules, elle entretenait une autre passion, celle de la pêche à la crevette. Lorsque la marée le permettait, en fin de matinée ou dans l'après-midi, Antoinette se transformait en pêcheuse de crevettes. Elle revêtait un pantalon bouffant très serré à la taille, qu'elle recouvrait d'un large tablier de toile épaisse et se coiffait d'un fichu noir pour mieux se protéger du soleil, du vent, de la pluie et du froid selon les caprices du temps. Ainsi vêtue, elle partait attraper les précieuses crevettes, sa balance d'une main, son panier sur l'épaule équipé d'une longue perche de bois à l'extrémité fourchue. Cette activité d'Antoinette nous permit de déguster nos premières crevettes fraîches. Qu'elles soient cuites au courbouillon ou simplement frites à la poêle, l'odeur de cette cuisine m'enivrait. Ces jours-là, notre mère restait dehors, prétendant que tout allait sentir la crevette dans la maison et que même ses vêtements et ses cheveux s'imprégnaient de cette attachante odeur. Avec Armand, nous adorions manger ces petites bêtes qui arrivaient grises à la cuisine et qui devenaient roses après cuisson. Les décortiquer avec les doigts, les manger avec les doigts et pour finir se lécher les doigts, s'ajouter à notre délectation. Notre mère ne partageait pas du tout notre passion pour le petit crustacé rose et elle se contentait du pain et du beurre salé qui accompagnaient toujours la dégustation. Nous découvrîmes au fil des semaines que la passion avouée d'Antoinette pour la pêche à la crevette était en fait une petite activité lucrative qui permettait au couple d'améliorer leur ordinaire. Elle avoua plus tard qu'à Foura, les femmes n'avaient pas grand choix pour gagner un peu d'argent. Soit les crevettes, soit les huîtres qu'il fallait arracher au rocher avec un piolet en métal, soit travailler à la laiterie. À part cela, les moyens d'améliorer l'ordinaire ou simplement d'assurer sa survie étaient rares, voire inexistants, surtout en dehors de la présence des beignassous. Le couple Tartarin fut parmi les premiers à comprendre trois choses capitales pour leur avenir. La mutation de Fouras-sur-Mer en Fouras-les-Bains, l'extraordinaire réclame faite dans toute la France, et enfin la prodigieuse vitesse du train des Bains de Mer qui mettait leur ville à quelques heures de Paris. Jules Tartarin était artisan-maçon. Il avait quitté l'école à l'âge de 12 ans, ne présentant pas d'intérêt particulier pour la poursuite de longues études. À Fouras, il n'y avait que trois alternatives à ce genre de situation, devenir pêcheur, devenir maçon, ou quitter la région pour aller tenter sa chance ailleurs. Le père de Jules, qui était lui-même maçon, lui conseilla de prendre sa succession dans la taille de la pierre, l'assemblage des moellons et le crépissage des façades à la chaux. Sa mère l'incita elle aussi à suivre cette voie. Elle fit remarquer qu'il n'y avait pas de monument à la mémoire des maçons morts au pied du mur, mais que la côte était parsemée de stèles, de colonnes et de calvaires à la mémoire des pêcheurs morts en mer. Jules hérita tôt de ses parents d'une petite maison construite par son père rue de la Fée du Bois. Quand ils constatèrent l'essor touristique de Fouras, Jules commença la construction de la villa à côté de sa propre maison en vue d'en tirer profit en la louant plusieurs mois par an à des baignassous. Mais cette initiative fit que les Tartarins furent vite montrés du doigt, jugés et soupçonnés d'être passés à l'ennemi, de renier les leurs, les plus médisants se demandaient pour qui, pourquoi tout ça, car leur union n'avait à ce jour produit aucune descendance. Malgré les efforts de notre mère pour que nos bains de grand air sous les sapinettes se déroulent pour le mieux, nous devenions de plus en plus turbulents. La seule alternative pour mettre fin au désordre était la plage. Notre premier séjour sur le sable fut comme une extase. Il y eut, il se doit, les consignes de sécurité de rigueur. Pas trop de soleil, avoir la tenue adaptée à l'activité, et surtout, pas question de se précipiter comme ces quelques inconscients dans l'élément liquide. Sur la plage, des abris solaires avaient été installés. Notre mère, sous le frais ombrage, nous surveillait tout en lisant. Au fil des jours, elle s'était même liée de conversation avec quelques dames de la plage qui, comme elle, surveillaient leurs enfants. Ces rencontres furent pour nous d'un grand secours. Comme une libération, nous pouvions enfin élargir notre rayon d'action, courir pieds nus sur le sable, jouer là où les vaguelettes se brisent et construire nos premiers châteaux de sable. Bien que rappelés à l'ordre à intervalles réguliers par notre mère, nous profitions pleinement de l'espace, de l'air, de notre joie de vivre et de la nature tout entière. Au fil de nos séjours sur le sable, notre peau prit une belle couleur. Le soleil avait accentué les taches de rousseur de mon frère et mes cheveux châtain clair avaient viré au blond. Au début, ces mutations inquiétaient notre mère et, voyant que rien ne pouvait changer le fil des choses, nous finirent tous par nous en amuser. La plage devint vite l'épicentre de notre vie. Tout y était sujet à rire et à amusement. Petit à petit, nos tenues de plage s'étaient allégées. Nous pouvions enfin nous libérer, jouer avec d'autres enfants de notre âge. Nous inventions des histoires de poupées qui vivaient dans de grands châteaux de sable recouverts de coquillages, de coquilles d'huîtres d'un blanc éclatant. Notre mère semblait, elle aussi, se complaire de ce nouvel art de vivre au grand air. Elle avait fini par s'habituer au sable qui rentrait dans les chaussures, qui, malgré toutes les précautions, croquait sous nos dents en mangeant notre 4 heures. Au sommet du dévergondage, notre mère osa même séjourner à la plage sans son chapeau. Nous prenions nos premiers bains de mer, encadrés par le mari d'une amie de maman. De grandes moustaches barraient son visage. Une voix grave et sonnante faisait que, sans avoir peur de lui, nous étions très attentifs à ses consignes. Une main sur les cordages qui nous assurait et qui, je dois l'avouer, me rassurait, l'autre tapant vivement l'eau, nous sautions dans les vagues, nous faisions de grandes gerbes, et quand parfois nous prenions la tasse, notre surveillant de baignade attitré venait nous secourir en nous administrant quelques vigoureuses claques dans le dos. Les après-midi où la marée ne nous amenait pas l'eau à la plage, nous partions tous les trois en exploration qui nous conduisait de plus en plus loin de notre résidence. alors qu'habituellement nous traînions les pieds pendant nos ordinaires promenades, ce qualificatif d'exploratoire attisait nos curiosités. C'est ainsi que nous découvrîmes des lieux à l'exotisme enchanteur. Les falaises, le bois vert, le port nord et son château, le port sud et ses pêcheurs, et la citadelle que nous voyions de la plage, mais dont nous n'avions pas encore mesuré toute l'ampleur. Notre mère s'était transformée pour nous en véritable guide. Depuis notre arrivée à Foura, elle avait lu de nombreux livrets et feuillets, tant historiques que touristiques, et nous expliquait ainsi l'affaire des brûlots durant la bataille de l'île d'Aix en 1809, le départ de Napoléon pour l'île d'Aix depuis le port sud pour le début de son exil, la construction par Vauban de la citadelle, le rôle des forts Boyard et Hennet dans la protection de l'estuaire de la Charente contre les envahisseurs anglais et bien d'autres histoires encore. Après quelques-unes de nos explorations, nous savions pointer du doigt sans nous tromper aussi bien l'île d'Aix, l'île Madame, le fort Boyard, l'île de Léron que l'île de Ré. Nous avions découvert les pontons et ce qu'était un carlet de pêche, ses bras tendus vers l'océan du haut desquels des hommes ni marins ni terriens tenter d'extraire de la mer nourricière quelques plis, carlés, mulets, terres et autres poissons scintillants. Armand, lui, était fasciné par les bateaux, par la pêche et par ces hommes au visage buriné, ces héros qui traversaient les pertuis pour aller tendre lignes et filets dans l'immense étendue bleue. Sur les jetées et au retour des bateaux, le spectacle des poissons argentés qui se débattaient dans leurs caisses en bois dans un ultime et désespéré tressaillement attirer les badauds. Mon frère était aux premières loges pour vivre pleinement ce spectacle. Avec ma mère, nous nous tenions à l'écart, loin du bruit et de l'odeur qui nous levait le cœur, en attendant le retour d'Armand qui prétendait qu'un jour, il serait lui aussi marin-pêcheur. Rien ne semblait pouvoir échapper à nos curiosités, mais toutefois, il y avait un lieu à Foura dont l'approche était soigneusement évitée par notre mère, le casino. À plusieurs reprises, j'avais interrogé notre guide pour savoir à quoi servait ce lieu. Notre mère était restée évasive. C'était, disait-elle, un lieu de perdition et de débauche. Le mot perdition ne m'évoquant pas plus de choses que celui de débauche, il fallut admettre qu'à Foura, il y avait comme un trou noir, un gouffre près duquel nous ne devions même pas nous approcher et d'où pourtant jaillissaient souvent des rires, des chants, de la musique et des applaudissements. Il y avait-il sur Terre, et plus précisément à Foura, un enfer dans lequel les damnés paraissaient vraiment s'amuser? Des doutes s'installèrent en mon esprit d'enfant. Nous finissions notre quatrième semaine au bain de mer, qu'il me semblait que nous avions tout exploré des environs immédiats de Foura, et que nous avions déjà quasiment tout cartographié. Pourtant, un matin, après être resté longuement à discuter à la cuisine avec Antoinette, notre mère vint nous rejoindre sous la glycine pour nous annoncer que cet après-midi, faute de pleine mer, nous irions au paradis. Foura devint ainsi, à mes yeux, un pays extraordinaire, avec au nord un enfer supposé et au sud un paradis qu'il nous restait à découvrir. Le jour même de l'annonce, nous nous retrouvions tous en route pour le paradis. Le boulevard des deux ports, le port sud, la Coue et enfin le lieu tant espéré se présenta à nous. Un groupe de personnes regardait une femme sortir des entrailles de la terre. Je vis d'abord sa tête, puis son buste et enfin son corps tout entier. Je serrai très fort la main de maman qui continuait son chemin sans s'apercevoir que nous allions être les témoins d'un incroyable miracle. J'avais déjà entendu parler de l'arbre du paradis et de sa pomme, mais jamais de sa fontaine. Le miracle s'effaça soudain. Pas de dame en blanc qui sortait d'une grotte marine, non, seulement une brave dame venue puiser de l'eau claire et fraîche au fond de ce trou nommé Fontaine du Paradis. Nous voyant surprise, la dame de la source nous dit « Oléboun à Borzaché, Oléboun comme l'eau de Védo Queré, au fait d'Aubun à la Bedasse !» Interloquée par la formule, notre mère me regarda interrogative, puis se tourna vers mon frère qui nous dit « Elle dit qu'elle est bonne à boire et qu'elle est excellente pour les intestins. » Notre mère s'empressa d'un grand sourire en direction de la dame de la grotte et nous reprîmes notre chemin. La plage du paradis découverte, nous redescendions sur terre, toujours entraînant les pieds pour reprendre notre chemin de retour. La chaleur était accablante. Un vent de terre desséchait le village. À travers les barreaux de la grille, le facteur me tendit un paquet de lettres en me disant quelque chose du genre.
« Il fait si chaud, et tu en tout à Cuny. T'as la drôlesse, va donc donner ça à ta mère. »
La poignée de lettres posée sur la table, je découvris qu'il y avait surtout une carte postale de Paris. Papa y disait
« J'arrive samedi au train du soir, je vous embrasse bien fort tous les trois, à samedi, signé Honoré. »
Cette nouvelle provoqua une grande agitation à la maison. Maman chantait, Armand courait dans le jardin à cloche-pied en répétant
« Papa arrive, papa arrive !»
Le samedi arriva sans hâte. En habit du dimanche, nous attendions sur la place de la gare. Un nuage de poussière mêlé à la vapeur balaya le quai de la gare. Des sifflements, des gens qui s'interpellaient quand soudain il me sembla reconnaître la silhouette de notre père. Maman cria bien fort « Honoré !» Après les étreintes et les larmes de maman, il fallut récupérer les bagages de papa. Pour cela, maman avait fait appel à Monsieur Lafleur. Homme de main et de confiance connu de tout Fouras, Lafleur rendait tout un tas de services. Bien entendu, le transport des bagages, les commissions chez les commerçants, les menus travaux et bien d'autres services. Grand débrouillard inventif et inspiré, il savait résoudre tous les problèmes du quotidien. À chacune de ses prestations, il offrait en signe de sa reconnaissance une fleur. Cette simple fleur avait au fil des ans construit sa réputation et son surnom. Au petit déjeuner, nos parents étaient radieux. Le soleil inondait la salle à manger, nous baignions dans le bonheur. Papa porta sur moi son regard.
« Tu as bonne mine, Charlotte, mais qu'as-tu fait de tes cheveux? Ils sont presque blonds. »
Je n'eus pas le temps de répondre que ni maman, ni Armand, ni moi ne pût me retenir un grand éclat de rire.
« Et toi, mon garçon, mais tu as regardé le soleil au travers du passoir. On dirait que tu as encore plus de taches de rousseur qu'avant. »
Un fou rire dévastateur s'abattit sur nous quatre. Papa et maman furent obligés de sortir sur la terrasse pour qu'enfin le calme revienne. Nos premiers jours avec notre père furent consacrés à la visite de Fouras. Nous parcourions les rues, les boulevards, les plages. Nous lui présentions du bout du doigt les points essentiels des panoramas. Notre père était fier de nous. Nous déambulions sous les pinèdes dans les bois du casino en nous tenant tous les quatre par la main. La grande différence avec les promenades que nous faisions avec maman, c'est qu'en fin d'après-midi, on rejoignait le centre-ville. Là, nous avions droit à une supette, je dis bien supette et non pas sucette. Au dire du confiseur qui les avait inventées, la supette se déclinait en 1000 parfums. Ces fameux bâtons de sucre d'orge faisaient le délice des petits comme des grands. On ne pouvait pas visiter Fouras sans avoir connu le ravissement de la dégustation d'une supette. La supette en bouche, nous nous dirigions alors vers le café de la promenade. Bras-dessus, papa et maman nous ouvraient un passage dans la cohue amassée devant l'entrée. Sous les frais ombrages, nous dégustions des sirops de grenadine bien frais. Je ne sais pas trop ce que nos parents consommaient, mais ce qui nous ravissait, mon frère et moi, c'était cette étrange bouteille en verre recouverte d'un grillage métallique que le garçon amenait à notre table. L'eau jaillissait de celle-ci en actionnant une sorte de gâchette placée en son col. Arrivée dans le verre, l'eau libérait un flot de bulles dans un jet pétillant. Nos parents savouraient dans de grands verres une boisson d'un jaune transparent tout en discourant. Cette bouteille exerçait sur nous une réelle fascination. Malgré l'interdiction parentale, c'était à qui de nous deux arriverait à libérer le siphon et à faire jaillir la source d'eau gazeuse. C'était bien là le seul intérêt que nous trouvions à cette eau, car son goût trop salé et ses bulles exubérantes nous faisaient faire mille grimaces. Le soir venu, après le dîner, notre père avait instauré le cérémonial du coucher. Oh non, pas le nôtre, mais celui du soleil. Nous partions en direction de la grande plage, et là, bien installés sur la terrasse promenade qui surplombait l'océan, nous étions censés attendre tranquillement que le soleil disparaisse derrière l'horizon. Notre père prétendait que cet exercice devait nous apaiser et nous amener ainsi vers un endormissement réparateur. La fraîcheur venait doucement nous envelopper, le ciel s'embrasait, le disque solaire prenait des dimensions extravagantes. Son bord inférieur commençait à toucher l'océan, Et c'est là qu'en principe, Armand, rompant le charme de ce grandiose spectacle de la nature, ne pouvait retenir un long « pschtt » semblable à celui que fait une poêle très chaude que l'on plonge dans de l'eau fraîche.
« Décidément, Armand, tu resteras toujours aussi sot. »
La nuit nous enveloppait, papa tenait maman par les épaules et nous rentrions par les rues blanches sous la clarté lunaire. Dès l'arrivée de papa, nous avions été informés de la visite prochaine de notre oncle Désiré et de tante Alphonsine. Le lundi 12 août, une voiture légère, attelée d'un fringant cheval noir, s'arrêta devant la grille. Désiré et Alphonsine se tenaient bien droit à l'arrière. En vrai gentleman, notre oncle descendit le premier pour aider de son bras robuste notre tante à descendre. L'oncle Désiré régla sa course au conducteur et nous nous retrouvâmes tous sur la petite terrasse. Après avoir largement commenté leur voyage en train qui avait, semble-t-il, très éprouvé notre tante, il y eut la diffusion des dernières nouvelles de Paris. La nouvelle loi sur les associations votée en juillet, qui, pour le plus grand plaisir de l'oncle, allait assurer la dissolution de centaines de congrégations religieuses. Celle sur la limitation de la vitesse des automobiles à 10 km/h fut qualifiée par notre oncle de scélérate. Notre père bondit alors de son fauteuil.
Vous savez, Désiré, Fouras-les-Bains, ce n'est ni l'Afrique noire, ni nos comptoirs de Pondichéry et de Chandernagore. Ici, nous avons la presse de Paris, avec certes un peu de retard, mais nous sommes informés de tout ce qui se passe à la capitale.
Un ange passa au-dessus de la terrasse. Notre père jugea bon de rajouter.
Vous devez bien savoir qu'ici, au centre-ville, nous avons une agence avec le téléphone et le télégraphe. Vous n'allez tout de même pas imaginer que j'aurais laissé partir Armandine et les enfants à l'aventure dans l'incertitude d'une contrée sauvage et isolée.
Un second ange passa un peu plus vite que le précédent, mais celui-ci fut bien heureusement rapidement chassé par l'intervention de notre mère. Je vous propose de vous rafraîchir, de déposer vos bagages dans votre chambre et nous nous retrouverons pour une promenade. Vous devez être pressé de voir la mer. Désiré et Alphonsine étaient logés chez l'habitant, de l'autre côté de la rue de la Fée des Bois. L'arrivée de nos deux Parisiens, dans nos petites habitudes, eut l'effet d'un tourbillon d'été sur un fétu de paille. Il fallut tout voir, tout essayer, goûter à tout. Les journées ne suffisaient pas à tout dévorer. Après avoir dégusté les fruits de mer, la chaudrée, les poissons chauds, froids, en sauce, grillés, à la mayonnaise, les glaces maison, les pâtisseries du jour, il fallait vite aller déambuler sur la plage, au pied du sémaphore, sur les boulevards, relever son pantalon et mettre les pieds dans l'eau, donner son avis sur les châteaux de sable, sur les belles toilettes et les beaux chapeaux. Oncle Désiré nous emportait tous dans sa quête du plaisir. Nous ne reconnaissions plus nos parents, ils se tenaient par la main, ils riaient, ils semblaient heureux et libres de tout. Cette tornade nommée Désiré nous convenait parfaitement. Nous étions tout le temps avec eux, mais pour autant, nous goûtions à cet immense espace de liberté dont nous disposions. Leur euphorie était aussi la nôtre. Nous avions l'impression de redécouvrir Fouras en accéléré comme dans les films des messieurs Lumière ou Méliès. Est-ce la liesse du moment, notre repas au restaurant Charrier ou la vue d'une superbe automobile qui traversa devant nous qui fit dire à notre oncle que l'année prochaine, si tout allait bien, c'est en automobile que nous remonterions le grand boulevard de la plage. Les cheveux au vent, les trépidations de la machine, le rêve s'installait en nous. En fin d'après-midi, nous nous étions tous retrouvés à la terrasse du bar de la promenade et là, le nez dans nos verres de Mantalot, nous écoutions les récits de l'oncle Désiré. Il savait tout de cet univers merveilleux et naissant de l'automobile. Il nous raconta avec enthousiasme sa visite en février dernier au salon de l'automobile de Paris. Il exultait en nous citant les noms des grands constructeurs présents sous les verrières du Grand Palais. Des dames d'une table voisine, qui ne pouvaient pas faire autrement que d'écouter notre oncle, lâchèrent un long « Oh !» admiratif quand celui-ci nous informa qu'à la fin de l'année, il y aurait plus de 8000 automobiles sur les routes de France. On ne dit pas que des bonnes choses de l'automobile. s'empressa notre mère, soutenue dans ses propos par notre tante Alphonsine. J'ai même lu que cette pratique, aussi moderne soit-elle, pouvait avoir des conséquences désastreuses sur la santé du chauffeur et de ses passagers. Sans laisser ni à mon père ni à notre oncle le temps de réagir, notre mère poursuivit. Si ce n'était que moi, au lieu de dépenser des fortunes dans cette acquisition futile et dangereuse, je préférerais que nous ayons une villa d'où l'on pourrait voir la mer et se reposer sous les arbres. Après les cheveux au vent et les trépidations de la machine de l'oncle Désiré, je m'imaginais maintenant promenant mes poupées dans les bois de chêne autour de notre belle maison surplombant la plage de Foura. Je n'entendais plus rien de leur conversation, mon regard se perdant tantôt dans l'horizon, tantôt dans les reflets verts du fond de ma mante à l'eau. Le mot « casino » prononcé par notre oncle me sortit de ma somnolence. J'avais bien compris, nous allions continuer notre promenade en passant par le casino. Il y eut une rapide discussion entre quatre et j'entendis des mots que je ne connaissais pas. Ma mère n'avait pas l'air très enthousiaste. Les yeux de mon oncle pétillaient. Nous nous dirigeâmes donc vers les portes de l'enfer. À peine avions-nous franchi le porche du casino que des échos de musique, des rires et de chants mêlés nous enveloppèrent. Tante Alphonsine marmonna en direction de notre mère quelque chose du genre « C'est le chant des sirènes qui attire les hommes ». Il fallut bien vite reconnaître que ça n'avait rien de l'enfer. Les gens au bar buvaient sous les chênes verts. Sous le kiosque en rondin, des musiciens entraînaient les couples vers la piste de danse. Des enfants couraient en tous sens. Pour satisfaire la curiosité de l'oncle Désiré, nous entrâmes dans le théâtre. Il était vide. Grâce aux lueurs du jour que nous avions laissé entrer, nous devinions ses sièges rouges et son rideau de scène à demi ouvert. Puis ce fut le tour de la grande salle, celle des tapis verts, l'enfer du jeu, le haut lieu des perditions, là où les fortunes changeaient de main et où les hommes perdaient leur âme, commenta notre mère. L'oncle Désiré, en se frottant vivement les mains, proposa à notre père d'y venir un de ces soirs jouer quelques plaques. Je fus rassurée de voir que notre père n'allait jouer ni l'argent, ni les bijoux de maman, mais simplement des plaques. Car lui, il en possédait beaucoup dans sa boutique de photographie de la rue Mouffetard. Nous quittâmes le casino, l'esprit tranquille et rassuré. Nous n'avions été ni dévorés par les flammes, ni même harcelés par les fourches de quelques diables cornus. Ce matin du 14 août 1901, nous nous étions tous regroupés à l'ombre d'un figuier de la rue de la Fée des Bois. Grand chapeau avec des cerises et des fleurs pour maman et tante Alphonsine, un canotier tout neuf pour papa, une casquette blanche pour Armand et pour moi un chapeau de paille orné d'un ruban blanc et rose. Quand je dis que nous étions tous là, il ne manquait que notre oncle. Mon père tira de son gousset sa montre quand on entendit arriver un attelage mené d'une main experte par l'oncle Désiré. Louer une voiture à cheval pour aller découvrir la presqu'île de Foura vers la pointe de la fumée avait été reconnu par l'ensemble de notre communauté comme une excellente initiative. La panière au repas préparée par Alphonsine, la glacière en bois qui contenait les boissons fraîches, les ombrelles et une large nappe à carreaux rouges furent chargées à l'arrière de la voiture. Tout le monde prit place. D'un geste léger, la mèche du fouet caressa la croupe du cheval et ainsi, sans choc ni à coup, notre attelage prit la direction du port nord sous la commande chevronnée de l'oncle Désiré. Par le boulevard de l'océan, nous longeâmes la mer pour atteindre le port nord. À l'arrêt devant les bâtiments du bureau du port, sans descendre de la voiture, sous les commentaires émerveillés de Désiré, nous admirions le spectacle des bateaux avec leurs filets tendus dans leur mâture. Notre oncle était en train d'inventer une nouvelle forme de tourisme. Le tourisme express du XXe siècle. Nous traversâmes la presqu'île. Cette aire déserte et marécageuse, régulièrement envahie par les flots aux tempêtes d'équinoxe, contrastait avec la nature généreuse et accueillante de Foura. Notre étonnement allait grandissant au fur et à mesure que notre équipage approchait de l'extrême pointe de la terre. Des voitures à bras, des carrioles tirées par les ânes, des dizaines de personnes allaient et venaient. Un seul mot, une seule raison à ce grand déplacement, l'huître. une richesse, un don de la nature qui se méritait par la peine de ceux qui, dos cassé, les pieds dans l'eau, décollaient du rocher le précieux mollusque. De cette pointe de terre, le panorama s'ouvrait sur les îles Madame, Oléron, Aix et Ré, on devinait La Rochelle, les villages de la côte comme Port des Barques, Angoulin, Châtelaillon, les falaises d'Yves. Ce désert, cette pointe aride qui avait perdu il y a fort longtemps son statut d'île, grouillait de gens affairés. Des petits groupes séparés examinaient, triaient, rangeaient les huîtres dans des paniers recouverts d'algues brunes. Le cheval dételé prenait du repos sous un tamarin sculpté par les vents de mer. À quelques pas de là, un grand arbre en forme de parasol offrait son ombre à tout notre groupe. Une dame s'approcha de nous et nous proposa un panier d'huîtres pour notre repas. Désiré accepta la proposition et il lui tendit en échange quelques pièces qu'il sortit d'une poche intérieure de son veston. La dame portait une coiffe si étrange que pour percevoir son visage, il fallait être placé parfaitement en face d'elle. Quand la femme au visage obscur et buriné rejoint son groupe, notre mère expliqua « Vous avez vu la dame des huîtres? Elle porte une coiffe qu'ici on appelle une quiche-note. » J'ai lu, ajouta-t-elle, que ce nom venait de l'époque pendant laquelle les Anglais occupaient toute la région. Quiche-note, en fait, devrait se dire « Kiss-me-note, ne m'embrasse pas ». Notre oncle et notre père explosèrent de rire.
Les habits rouges, ils risquaient pas de les embrasser avec un pareil tuyau sur la tête. Et comment peux-tu savoir si elle est belle ou pas, la donzelle, quand elle est cachée dans sa quiche-note?
Vous n'êtes que des grossiers personnages, conclut notre mère avec un sourire malicieux aux lèvres. Les huîtres furent ouvertes, et l'oncle entendit une bien pleine à mon frère, qui, en grimaçant, marqua son profond dégoût pour le mollusque en train d'agonir au fond de sa coquille, et il ajouta « Bah, en voulions point, on me fait vire !» Tout le monde éclata de rire, et l'oncle conclut que si plus tard on ne savait pas quoi faire de lui, qu'il n'aurait aucune peine à apprendre les langues étrangères. L'avenir d'Armand me sembla tout tracé. La fin de l'après-midi fut consacrée à la digestion des huîtres, de la terrine d'Antoinette, du poulet rôti, des tartes aux prunes et des chaussons à la compote de pommes. Le soleil déclinait dans sa course, la mer avait recouvert l'estran et de courtes vagues venaient se perdre tout autour de nous. La pointe de la fumée avait été abandonnée par les ramasseurs de coquilles et l'impression que nous allions jouer les naufragés de l'île déserte m'envahit. Le cheval avait terminé son picotin d'avoine. Mon oncle prépara l'attelage, serra les larges sangles, secoua vivement le harnais pour en vérifier sa parfaite sécurité et nous repartîmes pour Foura. Nos têtes dodelinées au chaos de la route, la brise du soir nous apaisait. Plus personne ne parlait, le jour déclina. Le lendemain, 15 août 1901, comme tous les ans depuis 1856, Foura vivait à l'heure des régates. Les trains déversèrent des milliers de curieux. La ville était assaillie. Terrasses, restaurants grouillaient d'une foule exubérante. Les employés des établissements de bains ne savaient plus où donner de la tête pour répondre aux exigences de cette multitude pressée de goûter aux délices de la baignade. Des gens en habit du dimanche arpentaient les rues de Foura, décorées pour l'occasion de centaines de fanions bleus, blancs et rouges. En début d'après-midi, à la marée montante, un navire de la marine arrivant de Rochefort vint mouiller face au sémaphore. Il remorquait une quinzaine de baleinières, les régates allaient pouvoir enfin commencer. D'un côté, les baleinières aux avirons desquels se tenaient de solides gaillards de la marine française prêts à souquer comme des forcenés, et de l'autre, de robustes pêcheurs locaux sur leurs voiliers de pêche ou sur leurs embarcations à rames, allaient se livrer une lutte sans merci. Notre plage était noire de monde, du haut de la promenade des Sapinettes, à quelques mètres des officiels qui allaient juger l'épreuve, nous guettions tous le départ de la régate. Au sommet du sémaphore était hissé le grand pavois. Les drapeaux multicolores flottaient au vent, nous entendîmes un coup de canon. La foule se précipita vers l'endroit où nous nous tenions pour mieux profiter du spectacle. Je serrai fort Armand par la main, la foule nous encercla, et de la régate, nous ne vîmes que des jambières de pantalon, des robes rayées, fleuries, des ombrelles fermées, des cannes à pommeaux d'argent, des chaussures vernies et tout cela enveloppé dans un nuage de poussière.
Alors les enfants, ça vous a plu? Vous avez trouvé ça beau? C'était vraiment un spectacle magnifique.
Le lendemain, l'oncle Désiré, la tante Alphonsine et surtout notre père reprirent le train de Paris. Il ne nous restait plus que 15 jours pour terminer notre séjour de santé à Fouras. La ville se vida rapidement de ses baignassous, les rues devinrent désertes, la plage n'était plus qu'une étendue infinie de sable. Les marées d'août finirent par avoir raison des vestiges des derniers châteaux de sable. La terrasse de la promenade se vida et les marchands ambulants disparurent. Le casino perdit son influence, ses chants et ses rires. Les jours devinrent de plus en plus courts et les soirs de plus en plus frais, mais j'avais la sensation que, dès lors, nous faisions partie du décor, que nous allions vivre pour toujours avec les marins, les pêcheuses de crevettes, les marchandes des quatre saisons du marché, avec les ramasseurs d'huîtres de la pointe de la fumée, avec Jules, Antoinette, La Fleur, Monsieur Charles et avec Raymonde, notre marchande de poissons. En 1905, notre père fit construire une villa près du casino en haut de la falaise. Elle fut baptisée Villa des Beaux-Jours. La même année, l'oncle Désiré arriva à Fouras dans une superbe automobile Panhard et Levasseur, d'occasion certes, mais qui portait le nom prometteur de Centaure. Par la force des choses, Alphonsine avait dû s'habituer à la vitesse. Armand, après de brillantes études à Paris, possédait la pratique courante de 5 langues et de quelques dialectes dont le patois charentais. Il travaillait pour la fabrique suisse des chocolats Colère, où il exerçait la fonction de courtier dans un espace allant de Moscou à Venise, en passant par Londres et Berlin. En 1914, après 2 années à l'école normale, je devenais institutrice à l'école communale d'un charmant village du département de la Vienne, tout en gardant le secret espoir un jour de revenir à la capitale. Tu vois, Margot, aujourd'hui nous sommes en 1950, la Villa des Beaux-Jours est toujours là-haut sur la falaise et demain, si tu veux, nous regarderons un autre album de cartes postales.